divertissante à Québec.
Week-end.
Installez-vous confortablement sur la Terrasse Week-end 91.9.
Une nouvelle qui est sortie au cours des dernières heures. Jean-Philippe Vautier, qui normalement est à l'animation de l'émission Bonsoir, bonsoir, il y a de cela 3 mois, avait annoncé qu'il arrêtait toutes ses activités professionnelles pour surménage, épuisement professionnel. Il y a Marie-Claude Barrette dans un premier temps qui l'avait remplacé. Et par la suite, c'est son ami Jean-Philippe Vautier, Jean-Sébastien Girard, qui a assuré la poursuite de l'animation estivale. Donc, Bonsoir, bonsoir, sur laquelle Jean-Philippe Vautier est invité la semaine dernière pour annoncer son retour en onde qui devait avoir lieu aujourd'hui. Mm-hmm. Une entrevue donc diffusée à Radio-Canada, une entrevue pour laquelle il y a eu plusieurs commentaires, à savoir, il va-tu encore vraiment bien? Ce qu'on dit de cette entrevue-là, si vous l'aviez visionnée, c'est que Jean-Philippe Vautier semblait décousu, semblait stressé et il ne semblait pas avoir l'air si bien que ça.
Non.
Assez pour retourner à la barre d'une émission, donc, comme Bonsoir, bonsoir. Et c'est aujourd'hui que le communiqué de presse de Radio-Canada mentionnait qu'on allait extensionner, si on veut. Son retour aux commandes du populaire rendez-vous estival était prévu pour ce soir et il a eu l'occasion d'en discuter en tant qu'invité, blablabla. On dit qu'on prolonge, donc, cette pause était le choix le plus judicieux pour le moment, a indiqué Radio-Canada en communiqué. Là, ça avait l'air un petit peu décousu ce que je viens de dire là, mais si c'est un communiqué, on ne sait pas si la décision vient de Radio-Canada ou si la décision vient de Jean-Philippe Vautier suite à cette entrevue.
Pour l'instant, ouais. C'est ça, en plein ça. Mais tu sais, c'est quand même la réaction que moi j'ai eue quand tu m'as appris cette nouvelle-là tantôt, parce que je ne l'avais pas vu passer, mais j'ai vu l'entrevue de jeudi dernier. La première réaction que j'ai eue, c'est « sage décision ».
Ah oui, hein?
C'est, tu sais... On lui a posé des questions sur son travail. « As-tu le temps de t'ennuyer de ton travail? » Puis sa réponse, c'était « Non, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer de mon travail. » C'est 3 mois quand même, somme toute, c'est court. Mais effectivement, il avait pas l'air d'un gars qui était de retour au sommet de sa forme. Puis c'est pas nécessairement ça que ça prend non plus pour revenir au boulot. Là. Je veux être clair par rapport à ça. Mais il avait pas l'air d'un gars qui était prêt.
Puis tu sais-tu quoi? 3 mois pour être passé par là, par un épisode d'épuisement professionnel, avec un amas de plein d'affaires, là, mais pour être passé par un épuisement, 3 mois, à mon sens, par expérience, si je me fie à ce que moi j'ai vécu, c'est très court.
Mm-hmm.
Des fois, ça peut prendre des années avant de te remettre d'un épuisement. Tu peux quand même, malgré tout, être fonctionnel puis retourner au travail, mais il reste que tu restes très sensible, très fragile quant à certaines situations. Puis 3 mois, là, dire que tu es capable de retourner à un poste comme il a, c'est-à-dire fronter une émission devant un public où il y a une pression énorme de performer à cause des codes d'écoute, sachant le climat médiatique, bien pas le climat, mais sachant que l'univers médiatique est quand même instable.
C'est ça, exactement.
Moi, je trouve ça court, 3 mois, puis je suis pas surprise qu'on décide de prolonger ça. Tout ça pour dire que cette nouvelle-là était notre entrée en matière pour parler de santé mentale. Mm-hmm. Puis je pense que tout prétexte est bon pour le faire, on n'en parle pas assez. Et c'est suite à plusieurs articles sur lesquels on est tombé, Nathan et moi, au cours des dernières semaines, qu'on a dit, bon, là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aller de l'avant et en jaser, parce que même si, oui, on en parle de plus en plus de santé mentale, est-ce que les informations auxquelles on a accès, que ce soit sur les médias sociaux ou encore sur différents blogs ou sites web, c'est-tu des bonnes interventions, des bonnes informations plutôt?
Il y a beaucoup de mésinformations, il y a beaucoup de désinformations. Tu sais, la différence entre les deux, la désinformation, c'est des gens qui vont partager des informations en sachant clairement que ces infos-là sont fausses. La mésinformation, des fois, c'est que ça se peut qu'à la base, il y ait une très bonne intention de « Hein, j'ai vu ça passer, j'ai cette information-là, je dois partager absolument. » Mais finalement, cette information-là est fausse, elle est erronée aussi. Puis il faut faire attention à ça parce que malheureusement, les réseaux sociaux, ça va tellement vite que oui, il y en a des pas fins, comme Sylvie dit souvent. Là, il y en a des pas fins qui vont profiter des réseaux sociaux à ce moment-là pour désinformer. C'est qu'il y a un article qui recense en fait une étude que l'Université de Montréal a fait. C'est 15,7% de mésinformation et 6,3% de désinformation parmi les vidéos qui ont été recensées. Mmh. On parle quand même d'une vidéo sur 5 dans un échantillon de 1000 vidéos sur la santé mentale. C'est le docteur Alexandre Hudon, qui est psychiatre et professeur adjoint du département de psychiatrie et d'addictiologie de l'Université de Montréal, qui a porté ça, cette étude-là. On était principalement sur TikTok. On a regardé des vidéos qui provenaient de 16 pays différents, dans différentes langues. langues, principalement anglais, français, espagnol aussi. Et quand on se questionne par rapport à ces vidéos-là qui sont présentées, une des problématiques qu'on voit, parce qu'on a consulté d'autres spécialistes pour l'article, c'est qu'il y a beaucoup trop d'auto-diagnostics. Puis là, c'est ça le problème. C'est que c'est des vidéos qui vous sont présentées comme, tu sais, vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes plus irritable. Moi, j'en ai vu passer là, dernièrement beaucoup là, sur mes réseaux sociaux, là, le cortisol. Là, apprends à gérer le cortisol dans ton corps. Il faut que tu fasses une cure de cortisol. Ben, c'est quoi ça, le cortisol exactement? Puis là, ben, ça a l'air d'être donc bien miraculeux parce que tout d'un coup, tu redeviens la personne qui était à 20 ans, tu as plus d'énergie, tu es patient avec tes enfants dans ton milieu de travail, une promotion, on te vend du rêve là, c'est parce que ça va changer ta vie bout pour bout mm-hmm. comme on dit. Mm-hmm. Puis finalement, ben c'est pas nécessairement le cas. Puis les gens évidemment sont facilement, t'es attiré par ça, t'sais, par cette solution là qui devient donc l'espèce de bouée de sauvetage là, peut-être fait. De si tu vas pas bien. Puis il y a une psychologue entre autres qui dit, t'sais, la problématique que moi je vois dans les dernières années, c'est beaucoup des jeunes qui débarquent dans mon bureau et me disent « Moi, j'ai ça. » OK, toi, le diagnostic est déjà fait. Oui, parce que j'ai regardé sur TikTok, sur Instagram, puis j'ai exactement ces symptômes-là. Fait que moi, je suis en dépression majeure. J'ai probablement un TPL, un trouble de personnalité limite, ou j'ai peut-être ça. Puis elle donne l'exemple, justement, parce que je lisais un petit peu plus, ça donne l'exemple d'un trouble de personnalité limite. Quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, là, c'est bien rare qu'il sait qu'il y a un trouble de personnalité limite.
Non, exact.
C'est difficile à diagnostiquer,
ça. Les symptômes slash le diagnostic, c'est tellement délicat parce que tu me dis irritabilité, j'ai plus de patience, je suis déprimée. Tu peux avoir 8 diagnostics pour ces trois symptômes-là.
C'est ça.
Ça n'a aucun maudit bon sens. Je pense que c'est important de s'informer. Moi, je suis genre la fille qui va aller voir Dr. Google régulièrement, mm-hmm. mais je vais régulièrement aussi voir mon médecin pour discuter de ça avec lui. C'est important de ne pas rester dans l'ignorance. À mon sens, moi, il faut que tu t'informes parce qu'après ça, il faut que tu puisses en discuter pour avoir un minimum d'informations. Après ça, de t'auto-diagnostiquer, c'est une autre chose. Et à condition aussi d'aller chercher la bonne information. Et ça me permet de te relancer là-dessus, Nathan, en disant que le gouvernement du Québec, en fait, que le ministère de la Santé a mis de l'avant un site web qui s'appelle appsantémentale.ca où on répertorie, selon différentes thématiques, des applications qui vont pouvoir vous aider, mais des applications qui ont été vérifiées et des applications qui sont officielles avec de bonne intervention. Fait que c'est vraiment de vraie bonne information plutôt. Tu arrives sur le site, donc, appsantémentale.ca, et là, tu as les 6 thématiques. Tu choisis pour quelle raison, toi, tu veux aider ta santé mentale. C'est-tu en lien avec ton sommeil, stress et anxiété, émotions et humeur, exercice et nutrition, confiance et relations ou consommation? Fait que tu cliques sur une de ces 6 thématiques là, et automatiquement, on va te proposer 4, 5, 6 applications qui sont vérifiées et qui sont entérinées, on va le dire comme ça, par le ministère de la Santé. Puis ça, je trouve ça vraiment trippant. Pour vos jeunes aussi, tu faisais un lien tout à l'heure, tu vois que ton jeune s'intéresse à ça, va voir sur le site web, c'est full bien fait, c'est super simple. Et après ça, ben, tu as accès au moins à de l'information qui est pertinente et qui est vraie.
C'est souvent ce qu'on reproche, tu sais, c'est ça, parce que l'accessibilité n'est pas simple. C'est vrai que c'est difficile d'avoir accès à un psychologue, c'est vrai que c'est difficile d'avoir accès à n'importe quel service en santé mentale actuellement. C'est vrai que le réseau est débordé, puis c'est plus difficile, mais il y a toujours des options, parce que la technologie est là, on est chanceux, on vit avec cette technologie-là maintenant. Puis là, de voir que le gouvernement a pris la peine de faire un tri là-dedans puis de nous déposer quelque part l'endroit où aller fouiller selon les besoins qu'on a qui peuvent être peut-être justement le premier coup de pouce ou le premier coup de main avant qu'on puisse avoir accès à un être humain qui va être devant nous et qui va poser le diagnostic. Mais tu sais, je trouve ça quand même particulier de voir qu'on démocratise de plus en plus la santé mentale dans les dernières années. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais le fait qu'on démocratise la santé mentale plus tardivement que bien d'autres maladies, c'est quand même elle qu'on tente d'auto-diagnostiquer le plus vite.
T'as raison.
T'sais, si t'as une blessure ou t'as un bobo physique quelque part, tu vas vouloir aller voir le pharmacien, la pharmacienne ou un infirmier ou un professionnel pour dire « Je fais quoi avec ça? Je mm-hmm. désinfecte ça comment? Ça prend-tu des points de suture? Tu le feras pas toi-même. » On s'arrache plus des dents toute seule. Tu vas voir le dentiste dans la vie. Mais quand c'est de la santé mentale, alors que c'est tellement ça peut tellement être fragile. Des fois, ça tient un fil. Puis là, on décide de s'auto-diagnostiquer comme ça. T'sais, dans l'article, encore là, il y a des gens qui disaient parce qu'ils ont arrêté de prendre des antidépresseurs parce qu'ils ont vu justement de la désinformation, de la mésinformation sur la prise d'antidépresseurs. Mais il y a des personnes pour qui la ligne est tellement mince entre prendre cette molécule-là puis arrêter de la prendre. Ça peut être impardonnable ce qui va se passer par la suite aussi. Fait que prenez le temps d'aller faire un tour sur cette ressource-là. Ça, c'est vraiment génial qu'on puisse avoir accès à ça.
appsantémentale.ca parce que la santé mentale, on n'en parlera jamais trop. Mm-hmm.